linguistique, calligraphie et lisibilité en rayon cathodique avec Jacques Piolle, directeur du Centre de recherche et d'études linguistiques à l'Université des Lettres d'Aix-en-Provence, et Nada Tamish, professeur de littérature arabe à l'UER 1 d'Orient Afrique du Nord, Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Cette émission, vous m'avez donné un long texte, mais enfin, finalement, nous nous sommes mis d'accord sur le thème suivant, calligraphie et lisibilité du texte. Je vais, dans l'ensemble, laisser à Madame Tomich le soin de poser à M. Piolle les questions les plus pertinentes, parce que nous sommes là dans un domaine où, personnellement, je suis sans aucune compétence.
Je vous remercie. Monsieur Piolle, dans votre centre de recherche et d'études, vous êtes en train de mettre sur pied un système de création de lettres et qui peut être étendu à l'ensemble des alphabets du monde, ce qui est déjà assez extraordinaire, et qui peut-être, par certains côtés, favoriser et faciliter la lisibilité en arabe, ce qui est pour nous un problème capital. Voudriez-vous exposer un petit peu votre système de façon à ce que nous puissions voir ensuite comment, dans le domaine de l'arabe, qui est celui qui me tient à cœur, il peut être ensuite appliqué?
Oui, je voudrais d'abord faire une mise au point. Je pense qu'il y a une antinomie entre lisibilité et calligraphie, si on ne se met pas d'abord tout à fait d'accord sur le sens du terme calligraphie. Cette antinomie, d'ailleurs, elle est dans le terme même de calligraphie, qui comprend et oppose d'une certaine façon la notion d'esthétique, le calé grec, et la notion de communication écrite, le graphène. C'est la raison pour laquelle la calligraphie arabe est parfois arrivée à n'être plus qu'un élément esthétique, un élément décoratif. Alors que moi, en tant que linguiste, ce qui m'intéresse, c'est la belle façon d'écrire, qui relève aussi de la calligraphie, et c'est uniquement de cette calligraphie-là que je vais parler, de cette calligraphie qui est celle des créateurs d'alphabet, des créateurs de lettres.
Et il y a d'ailleurs, dans le langage romain, latin, que dans le langage...
C'est cela, de façon assez universelle, à ceci près que nous ne l'avons appliqué pour le moment qu'aux écritures alphabétiques et syllabiques, c'est-à-dire que nous avons éliminé les écritures idéographiques comme celle du chinois. Je voudrais d'abord rappeler un petit point qui a son importance, à savoir que pour le linguiste, il n'existe pas de possibilité de communication linguistique sans une double articulation. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais très schématiquement, je pourrais dire que ces articulations sont d'une part une articulation au niveau du rapport entre le signifiant et le signifié, qui fait que s'opposent par exemple des termes comme rapidement et lentement, où l'on voit rapide s'opposer à lente. Et on voit là donc s'opposer des éléments en raison de leur signification. La seconde articulation est celle qui fait que nous distinguons mot, beau, tôt, comme étant trois mots différents, alors qu'en fin de compte, ils ne diffèrent que parce qu'ils ont un son différent. Be, te. Et faute d'avoir cette distinction entre ces trois sons, on ne pourrait pas distinguer ces trois mots, et donc on ne pourrait pas distinguer les trois significations sous-jacente comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il en va de même, ceci est vrai, pardon, au niveau de l'oral, il en va de même au niveau de l'écrit. Où les lettres ne sont qu'un des éléments de l'articulation entre ce que l'on représente sur le papier et les sons qui sont évoqués, puisqu'aussi bien toutes les écritures alphabétiques sont des écritures phonographiques. On écrit ce que l'on prononce, contrairement aux écritures idéographiques, où l'on symbolise ce que l'on pense. Cette double articulation, que nous allons donc retrouver parce que nous sommes dans le domaine de la communication linguistique, cette double articulation, elle est d'une lettre ou d'un groupe de lettres vers un son, car ici, l'élément signifié, c'est le son, qui fera par exemple que la lettre F dans faute ou le groupe de lettres PH dans philosophie ont le même signifiant qui est F. Et se prononce donc de la même façon. Mais si nous voulons, comme tout à l'heure au niveau de la langue parlée, et si nous voulons reconnaître ces lettres, encore faut-il qu'elles aient des signes distinctifs, des caractères distinctifs, des traits, dirait le phonéticien. Le trait qui oppose le be de bas au me de ma, nous allons le retrouver dans les lettres. Et nous voici tout de suite au cœur de ces créations de lettres. Si nous prenons par exemple un cercle, que nous traçons sur le papier, et une ligne dont la longueur est supérieure au diamètre du cercle. Selon les accolements que nous allons faire entre ces deux éléments, nous pouvons avoir un P, la lettre P, la lettre B ou la lettre Q. Et si, au lieu d'avoir une barre longue, nous mettons une barre courte, avec le même cercle et la même barre courte, nous pouvons faire un A en la collant à sa droite. Mais cette barre courte, pour peu qu'on lui mette un point, devient un I. Le cercle étant lui-même un O. La barre longue avec un point au-dessus devient un J. Et ainsi de suite, on se rend compte donc qu'avec très peu d'éléments, quatre en fin de compte, un petit cercle, une petite barre, une grande barre et un point, nous arrivons à produire jusqu'à 14 signes de notre notation. Les deux points, le signe égal, etc. Au total, 14. Et c'est donc avec ces éléments qui sont quatre graphiques, et les éléments de position, la position n'est pas la même au sein du D et au sein du B, entre ces deux éléments, et c'est donc avec à la fois ces éléments graphiques et ces éléments de position que l'on va pouvoir définir un alphabet et ainsi distinguer les lettres les unes par rapport aux autres. Cette analyse, c'est celle du linguiste, qui dit donc il y a des éléments de position. Il y a quelques caractéristiques qui font que le rond qui va être le haut doit plutôt être rond plutôt que long. Mais une fois cette définition donnée, amusez-vous à remplacer le rond par un petit cœur. Amusez-vous à remplacer le point par une pâquerette. Et reconstituez votre alphabet, vous allez vous rendre compte si cet alphabet à base de cœur et de pâquerette est lisible ou non.
Est-ce qu'il est ?
Eh bien... Nous avons mis au point un automate, c'est-à-dire un ensemble constitué sur ordinateur, et qui nous permet ainsi de créer toutes ces formes et de tester immédiatement la lisibilité d'un texte. Alors, on se rend compte que, sur le moment, on se dit, tiens, ça ressemble vraiment à un rond, et je vais certainement avoir un texte lisible. Et on débouche souvent sur des textes qui sont assez peu lisibles.
En définitive, M. Piolle, combien de signes vous faut-il pour l'alphabet latin et combien de signes en faudrait-il pour l'alphabet, disons, arabe ?
Il en faut beaucoup pour l'alphabet latin. Si vous voulez vous en rendre compte, simplement, lisez un petit peu un texte et vous rendrez compte que, par exemple, il y a deux A minuscules en latin. Il y en a un qui est fait avec une petite crosse et un tout petit rond, alors qu'il y en a un autre qui est fait avec un gros rond et une queue à droite. Qu'il y a deux G, l'un qui a une queue qui dépasse vers le bas, à droite, et l'autre qui a une boucle qui s'implante à gauche. L'alphabet latin est assez compliqué. Et selon le type d'alphabet que l'on va prendre, il va falloir plus ou moins de signes. Il est difficile, je crois, de tomber au-dessous de 60, et c'est plutôt de l'ordre de 80 dans les alphabets habituels. Combien pour l'arabe? Alors là, l'arabe, je crois l'avoir arrêté définitivement. L'écriture arabe, et je ne dis pas l'écriture de l'arabe, l'écriture de toutes les langues qui utilisent la langue arabe, et nous en avons recensé une soixantaine, peut se réduire à 42 formants graphiques.
C'est vraiment le monde inversé. On pensait jusqu'ici que l'alphabet latin était plus facile à reproduire pour l'impression, par exemple, et que l'alphabet arabe était plus difficile. Et là, c'est le contraire, d'après votre propre recherche.
Bien oui, parce que jusqu'ici, on a essayé de représenter l'arabe ou le latin, j'entends l'écriture arabe et l'écriture latine, avec des caractères préformés. C'est-à-dire qui existe antérieurement. Mais à partir du moment où vous les décomposez, vous vous rendez compte que les quatre formes de lettres, puisqu'en arabe aussi bien, on sait que nombre de consonnes, la quasi-totalité des consonnes, a une forme différente selon qu'elle se rattache à ce qui précède, se rattache à ce qui suit, se rattache à ce qui précède et à ce qui suit. Enfin, on a donc quatre formes. Ces quatre formes sont dans un rapport graphique tellement étroit qu'en fin de compte, il suffit d'un élément, et parfois de deux, dont un va être réutilisable en plusieurs endroits, pour écrire des quatre formes.
Bon. Dans votre propos, il y a un point que je ne saisis pas. Vous disiez, l'élément signifié important est le son.
Oui.
Et puis, vous parlez d'alphabet. Alors, pouvez-vous éclaircir ce point? S'agit-il d'un problème d'alphabet, ou s'agit-il de rendre des sons?
C'est le son pertinent. L'alphabet est un son pertinent, un son qui signifie entre le be et le pe, la différence est la pertinence. Ba et pas, étant donné qu'il y a un sens différent donné par le changement de lettre, je pense que c'est ce que M. Piolle voulait dire quand il parlait de signifier. Il y a un sens qui fait que le son be et le son pe sont en définitive des phonèmes et non pas simplement des sons, n'est-ce pas votre...
C'est à peu près ça. Les systèmes d'écriture, que ce soit celui de l'arabe qui n'est pas... Enfin, dont certains disent qu'il est consonantique, en fin de compte, c'est un alphabétique qui ne marque pas les voyelles. En tout cas, celui de l'écriture latine. Tous ces systèmes d'écriture sont faits pour noter des sons. Le rapport entre les lettres et les sons est donc un rapport de signification.
Alors, il ne faut plus parler d'alphabet.
Si, l'alphabet, c'est la matérialité du signifiant. Et le signifié, c'est des sons. Vous ne pouvez pas, comme à l'égard d'un texte, le lire comme vous lisez un panneau de signalisation routière. Le panneau de signalisation routière, un panneau rouge avec un trait blanc, vous pouvez dire sans interdit, mais vous pouvez dire aussi à votre enfant, il ne faut pas passer par là dans ce sens. Le même signe a eu deux sens.
Avec ce système, qui donc économise des caractères, puisqu'il réutilise des traits, au lieu de refabriquer tout le système des caractères, tout l'ensemble des lettres de l'alphabet...
De préfabriquer.
De préfabriquer, c'est ça. De préfabriquer, puisque vous le fabriquez, mais avec un nombre de signes très réduit. Donc, ce nouveau système, est-ce que vous prévoyez qu'il peut être utilisable dans l'édition sur un plan, disons, vaste? Est-il possible d'imaginer une édition basée sur votre système et qui pourrait se faire dans des délais plus brefs que l'édition actuelle, et à des coûts peut-être égaux ou inférieurs?
Oui. Il faudrait d'abord préciser ce qu'on entend par édition. Je pense que par édition, vous entendez...
Oui, le tirage d'un grand nombre de livres.
Voilà, la réalisation d'ouvrages pour la vente en librairie. Alors, si c'est ce que vous entendez, il existe actuellement toute une série de matériels qu'on appelle les photocomposeuses de la troisième génération, je crois qu'on les appelle. Moi, je préfère les appeler les cathocomposeuses ou les photocomposeuses à écran cathodique, dans lesquelles les lettres sont refabriquées à chaque fois que l'on en a besoin. Je veux dire par là qu'il n'existe pas, comme dans la vieille casse, un endroit où on va prendre la lettre dont on a besoin et qui existe et qui est préformée. Il existe quelque part simplement un modèle logique capable à chaque fois de régénérer la lettre. dont on a besoin, au moment précis où on en a besoin, sur un écran cathodique, d'en rappeler l'image. Et c'est à partir de là que, avec un système de photographie, on va créer la page des livres à imprimer. Déjà, il existe des machines, et depuis un certain temps, il existe des machines qui, pour la composition typographique en vue de l'édition, refabriquent des caractères au fur et à mesure. Mais en général, ces machines ont en mémoire l'image totale du caractère. Donc, si vous voulez, au niveau de l'électronique, sur la bande magnétique qui en est la mémoire, le caractère est déjà un tout préexistant au sens qu'on le disait tout à l'heure. Nous allons réaliser sur une petite imprimante rapide et nous commençons à réaliser sur du matériel de composition typographique par tube cathodique. Nous avons donc réalisé un système qui est exactement fondé sur le principe de fabrication du D, du B, du Q et du P à partir du petit rond et de la grande barre de tout à l'heure.
Bon, toujours pour la clarté de l'exposé, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous nous parlez de bateau, vous nous parlez de rond, vous nous parlez de pâquerette, et moi, je pense calligraphie. Alors, vous dites préparer la page du livre à l'imprimeur. Puis d'autre part, vous nous parlez de rayon cathodique. Et moi, quand vous évoquez les rayons cathodiques, j'ai dans l'esprit le ECRB ou le CMC7, ces deux caractères qui figurent sur nos chèques et qui sont pour moi, pardonnez-moi, des monstruosités typographiques.
Ah ben je suis tout à fait d'accord.
Alors, de quoi parlons-nous en ce moment? Parlons-nous d'un alphabet de pâquerette ou parlons-nous des alphabets ou de l'écriture arabe dont nous avons parlé avec M. Mamad, avec Katibi dans les émissions précédentes?
Tout à l'heure, pour simplifier, parce que nous sommes à la radio et non point à la télévision et que je ne peux donc pas communiquer une image, j'ai parlé d'un petit rond, d'une grande barre, de façon à ce que chacun puisse se faire un petit peu une idée du mécano en lettres avec lequel nous nous amusons. Mais si vous pensez que chaque lettre va être dessinée sur un écran cathodique, approximativement un écran de télévision, cet écran de télévision où vous pouvez voir 8, 10, 12 personnages le soir quand vous regardez une pièce, va servir à dessiner une lettre, une seule. Et chaque lettre va être dessinée sur la totalité de l'écran. Vous voyez bien toute la complexité de dessin que vous pouvez mettre, les plus belles enluminures du Moyen-Âge, peuvent très bien passer. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'un appauvrissement comme ces abominables choses qui sortent des entrailles des ordinateurs.
Que je citais tout à l'heure.
Oui, et bien d'autres.
Il y a bien d'autres. Ce n'est pas les abominations qui manquent.
Ah non, absolument pas. Et je suis le premier, bien que travaillant beaucoup dans le domaine de l'informatique, je suis le premier à refuser cela. Je pense que même la simple impression d'un ordinateur pour un travail utilitaire, pour une adresse, devrait avoir des caractères lisible et beau. Et c'est économique.
C'est heureux de vous entendre dire cela.
Et c'est économique. Je vais vous en apporter la preuve d'ailleurs, parce que tout récemment nous avons exposé au CICOB une machine, c'est-à-dire au salon de l'informatique, nous avons exposé une machine qui, au même coût qu'une machine standard qui fait ses abominations, est capable non seulement d'écrire de l'anglo-saxon ou le français façon se retrouve écrit facon, parce qu'on n'a pas de cédille, mais est capable d'écrire avec toute leur subtilité les 156 langues qui utilisent l'alphabet latin, les 4 langues qui utilisent l'alphabet grec, les 60 langues qui utilisent l'alphabet arabe, une symbolique mathématique et technique, et j'en passe. Ceci sans avoir rien ajouté à la machine, sinon un petit peu de matière grise. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre les caractères préformés qui occupent beaucoup de place, qui sont complexes, comme disait Mme Tomich tout à l'heure, nous les avons décomposés et les petits éléments, les pièces du mécano, prennent beaucoup moins de place, occupent beaucoup moins de place et en fin de compte reviennent beaucoup moins cher que les caractères tout faits et sont beaucoup plus beaux.
Mais M. Piol, vous parliez tout à l'heure de calligraphie. Et comment votre procédé peut-il permettre la calligraphie? Comment peut-il permettre une calligraphie qui pourrait varier comme un calligraphe cherche à varier au moment où il écrit? Comment votre procédé peut-il permettre de créer une calligraphie artistique mouvante?
Car enfin, plus encore peut-être dans le monde arabe que dans le monde latin, et c'est encore à prouver, on ne peut faire l'économie de la calligraphie.
Alors, je reviens tout d'abord sur la distinction que je faisais tout à l'heure entre deux calligraphies. Celle qui crée de beaux jeux de lettres pour l'impression des textes et celle qui enlumine des groupes de lettres, des mots pour en faire un objet de décoration, même si cet objet de décoration, une couverture d'un livre par exemple, continue à avoir une certaine signification. Dans l'un et l'autre domaine, l'informatique peut apporter une aide. Je ne parlerai que de la création des lettres pour la composition des textes, c'est-à-dire la composition typographique. Mais là encore, la création d'un jeu de lettres pose un certain nombre de problèmes. Vous avez décidé d'avoir un caractère plus allongé, plus gras, plus penché, enfin avec des formes originales. Quand vous le créez, il doit avoir une homogénéité. Cette homogénéité va venir justement du fait que tous les éléments graphiques dont je parlais tout à l'heure, ces pièces du mécano, sont réemployés. Vous ne pouvez pas avoir un P avec le rond qui est devenu carré, un B à côté dont le rond serait devenu un triangle, et un troisième, le D, dont le rond serait devenu un losange. Choisissez, c'est l'un des trois. Mais ça ne peut pas être les trois à la fois. Donc, lorsque le créateur de lettres aura créé ces éléments, il dit à l'ordinateur, assemble-les-moi, donne-moi un texte et je teste la lisibilité du texte. Lui va d'abord en tester la beauté, le corriger, et ensuite demander à un lecteur de voir si ce texte est lisible. Avant, il ne pouvait pas le faire. Avant, il était obligé de redessiner tout son texte. Là, l'ordinateur lui permet, en un rien de temps, au fur et à mesure qu'il crée, d'avoir tous les retentirs, de faire tous les réajustements, de faire toutes les corrections, à la fois d'un point de vue esthétique, qui est important, mais aussi d'un point de vue pratique, qui est celui de la lisibilité du texte.
Et je suis content que vous ayez mis le mot esthétique en premier. Mais madame
Ah oui, monsieur Piol, il y a une question qui m'inquiète. Ou du moins, je me demande si, comme McLuhan avait parlé à un moment donné de la galaxie Gutenberg, pensez-vous que nous entrions maintenant dans la galaxie informatique? Pensez-vous que l'aide qu'apporte l'informatique à l'homme va nous transporter d'un monde d'aujourd'hui à un monde autre, comme la Renaissance sort du Moyen-Âge? Allons-nous vraiment vers une galaxie différente de celle que nous avons connue jusqu'ici grâce à l'informatique? Ou pensez-vous que l'informatique, au fond, suit et nous permettra de poursuivre le chemin parcouru depuis le moment où l'électricité nous a aidé à sortir du monde de l'obscurité?
Je suis très heureux de vous avoir entendu parler d'électricité parce que je pense que la révolution informatique va être aussi considérable que la révolution électrique. Mais je ne pense pas qu'elle annonce pour autant la disparition de la galaxie Gutenberg, pour reprendre l'expression célèbre. En effet,
tristement célèbre.
En effet, qu'avait apporté l'imprimerie? À mon avis, deux choses très importantes. D'une part, la possibilité de multiplier le texte écrit et de le conserver au travers des âges en le multipliant. Et d'autre part, de donner un certain standard à l'écriture, fut-elle l'écriture individuelle. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'orthographe, c'est à ce moment-là que se standardisent les formes de caractère, et qu'en fin de compte, l'individu n'écrit plus pour lui et pour se souvenir, ou pour quelques rares initiés, mais écrit pour tout le monde. Eh bien, l'informatique va vous permettre d'écrire pour encore plus de monde, mais avec une possibilité supplémentaire qui était vraiment extraordinaire, à savoir qu'au moment précis où vous aurez fini d'écrire,
vous appuierez sur un bouton et votre interlocuteur, si vous n'en avez qu'un, mais si vous passez à la télévision, le monde entier comprendra votre texte et l'aura reçu. Et de ce point de vue-là, en annonçant un peu la disparition du livre, dont elle supprime les délais de fabrication et les coûts de fabrication, dont elle réduit les coûts de fabrication, l'informatique est vraiment une révolution.
Jusqu'au mercredi 9 janvier, notre maison est offerte exceptionnellement aux enfants pour mieux connaître le monde des images et des sons. Vous avez de 8 à 13 ans, vous rêvez de devenir pour un jour caméraman, journaliste, présentatrice de télévision, photographe ou auteur de bande dessinée. Alors Radio France met à votre disposition des caméras, des appareils photo, des magnétophones et des studios et une équipe d'astronomes qui vous invite à reconnaître dans le ciel Saturne, Jupiter et l'étoile de Noël. Et vous découvrez également le plus beau circuit automobile jamais réalisé de 37 mètres de long. Le hall est le premier étage de la maison de Radio France aux enfants jusqu'au mercredi 9 janvier. Après les informations, nous reprendrons.